C'est l'auteur Jiří Benovský qui sera un peu notre invité pour parler de utile et pas utile, parce que lui, il dit que sa cafetière a un esprit.
Ah.
C'est joli ça, non? L'esprit de ma cafetière.
C'est-à-dire, vous parlez à vos objets, Jean-Marc Richard?
Alors, c'est une bonne question. Ce que lui dit, ils ont un esprit, mais pas une conscience. Mais je parle un peu à mes objets. Parfois, j'ai de la peine à m'en séparer. Je ne sais pas, je viens de jeter une vieille théière que j'avais. Et franchement, ça m'a fait mal au cœur.
Oui, ça, c'est vrai qu'on a tous comme ça des liens sentimentaux avec les objets.
Moi, j'ai des liens sentimentaux avec les objets. Non, tout ça pour dire que parfois, l'objet paraît très utile ou très inutile, mais il a un esprit.
Mm-hmm. Qui n'a jamais parlé à son ordinateur quand il refusait de coopérer, notamment.
On parle souvent aux objets pour les insulter quand même.
C'est vrai.
Enfin, en tout cas, dans mon cas.
C'est vrai. Non, c'est pas vrai. Moi, je remercie parfois mes objets et aussi les gens qui m'entourent, mais les objets aussi, je les remercie parfois. Comme quoi.
Hein? À l'invitation de Daniel Do, je vous propose d'accueillir Jiří Benovský. Bonsoir, monsieur.
Oui, bonsoir.
Je vais vous appeler Jiří ou Yiri. Qu'est-ce que vous préférez?
Très bien, je me suis habitué depuis le temps.
Oui, vous êtes du reste, on va le préciser, philosophe, affilié à l'université de Fribourg, donc vous êtes habitué au Jiri, on va y aller comme ça. Votre livre nous a titillé, je dois dire, paru aux éditions Jouvence. Le titre, c'est « L'esprit de ma cafetière » ou « Comment tout dans l'univers possède une forme de mentalité ». Il y a quelque chose que vous évoquez avec beaucoup de finesse, Jiri, c'est ce besoin de retrouver un lien fort à la nature et pas celui qu'évoque la Bible qui nous dit que la seule chose qui compte sur terre est l'homme, hein, ça vous le citez, mais un lien presque égalitaire avec la nature.
Je me permets de faire un petit détour avant de répondre directement à votre question, qui concerne la question du lien entre l'esprit et le cerveau. Hein, ça c'est, oui. Le livre s'ouvre sur cette question-là,
oui.
Et à travers tout le cheminement du livre, on arrive à une théorie qui dit qu'en fait, il n'y a pas véritablement de différence à faire entre l'esprit et la matière, qu'il vaut mieux considérer une théorie qui s'appelle le panpsychisme et que je discute dans le livre, qui dit qu'en fait, toutes les choses sont une et qu'on peut simplement les considérer plutôt sous un aspect qu'on pourrait appeler esprit ou plutôt sous un aspect qu'on pourrait appeler matière. Je vais vous donner un exemple très simple qui permettra assez rapidement de le comprendre. Considérez que vous avez une douleur à l'épaule. Cette douleur est une sensation, quelque chose de mental, une souffrance qu'on a, qui relève de l'esprit. Mais c'est aussi quelque chose qu'on peut observer sur une IRM, par exemple, quand on va chez le médecin, il va pouvoir faire des images et il va pouvoir dire « bah voilà, c'est ça votre douleur ». On voit bien sur l'IRM votre douleur, elle est là, elle est là. Et donc, en fait, on a une seule et même chose qu'on peut appeler la douleur et dont on peut avoir l'expérience à la fois de façon mentale, hein, ça c'est l'expérience subjective le ressenti qu'on a de la douleur, et à la fois d'une façon objective, descriptive, purement matérielle, hein, on considère l'IRM, etc. Mais l'important c'est de dire c'est qu'il y a une seule et même chose, et que simplement nous avons deux perspectives sur cette même chose. Nous avons la perspective subjective et nous avons la perspective, on va dire, objective, scientifique, mais ce ne sont que deux perspectives sur une seule et même chose. Alors pourquoi parler de tout ça? On arrive avec ça à l'idée que dans l'univers, il n'y a pas des choses qui seraient spirituelles, mentales, d'esprit, et des choses qui seraient matérielles et qui n'auraient pas d'esprit. En fait, on arrive à une théorie qu'on appelle le panpsychisme qui dit que en fait, chaque chose possède des aspects matériels et des aspects psychiques. Et on insiste sur le « chaque chose ». Alors maintenant, pour revenir à votre question, on a souvent pu considérer que la nature était en quelque sorte là pour nous. Hein, et c'est pour ça que l'on dit « la forêt amazonienne, c'est très important, c'est les poumons de la planète, c'est ça qui nous permet de respirer ». Et derrière ce message, qui est parfaitement juste, hein, puisque la forêt sert effectivement à ça, il y a l'idée que la nature nous sert à nous. Parce que nous, humains, nous avons quelque chose de spécial, parce que nous avons la conscience, nous avons l'esprit, que les cailloux n'ont pas, que les glaciers n'ont pas, que les océans n'ont pas, que les forêts n'ont pas, etc. Mais avec cette théorie, avec le panpsychisme, on peut penser qu'en fait, tout dans l'univers est de la même nature, avec des aspects psychiques, avec des aspects matériels. Et si c'est le cas, alors nous ne sommes pas spéciaux. Nous, les êtres humains, on n'est pas spéciaux. On est peut-être un peu plus complexe, on a peut-être des structures mentales plus complexes que des arbres ou que des océans ou que des glaciers, mais sur le principe, nous ne sommes pas très différents de ces autres objets qui constituent la nature. Et ceci nous permet ensuite d'avoir un rapprochement de la nature qui n'est pas simplement celui de dire qu'on a besoin de préserver la planète, par exemple, pour nos enfants, parce que là encore, dans cette idée, qui n'est pas mauvaise du tout, hein, mais dans cette idée, on a de nouveau l'idée que la nature va servir nos enfants, elle va être là dans le but d'être utile à nos enfants. Mais avec le panpsychisme, on peut avoir l'idée que la nature a une valeur intrinsèque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de vouloir préserver la nature parce que ça va servir un but, mais de la préserver parce qu'elle a une valeur en elle-même.
Autant que la nôtre.
Et pas seulement une valeur pour nous. Voilà. Donc elle a une valeur intrinsèque. Et on arrive à cette théorie-là avec toute la discussion dans ce livre qui établit le panpsychisme, qui est cette théorie selon laquelle il n'y a pas d'opposition entre esprit et matière, et selon laquelle toutes les choses ont des aspects matériels et ont des aspects psychiques, hein, comme l'exemple de la douleur qu'on a vu tout à l'heure. Et du coup, il n'y a pas vraiment de raison, de principe de faire la différence entre les humains et entre la nature. Et s'il n'y a pas de différence de principe, il y a simplement des différences de degré. Hein, les glaciers vont être plus complexes sous certains aspects, et nous, les humains, on va être plus complexes sur d'autres aspects, donc on aura une mentalité, des aspects mentaux plus complexes que des glaciers, évidemment. Les glaciers, par exemple, n'ont pas d'intelligence propre, etc.
Ils ont un
esprit, mais un esprit pas au sens de la conscience ou d'intelligence, mais un esprit au sens d'avoir ce qu'on appelle en philosophie, dans ce débat, une proto-mentalité, c'est-à-dire des aspects très primitifs psychiques, comme
Jiri,
la carrière, tous les titres du livre.
Absolument. Jiri, pour revenir à des choses qui sont très proches des préoccupations des auditrices et des auditeurs, on revient sur la douleur. Très souvent, on a des témoignages de femmes, d'hommes qui viennent nous dire « En fait, on n'a jamais reconnu ma douleur parce que on ne la voyait pas sur un IRM, parce qu'on n'arrivait pas à lui donner une valeur scientifique, électrochimique liée au cerveau, mais je la ressentais, je la vivais. » Et c'est ça qui fait qu'on n'a pas, ou qu'on ne peut pas réussir à comprendre l'autre d'une certaine façon, parce qu'on n'accepte pas que les choses ne sont pas que du cerveau et que de l'électrochimique.
Oui, alors... Nous vivons aujourd'hui dans nos sociétés occidentales dans un monde où le matérialisme est extrêmement populaire. Et le matérialisme, c'est l'idée que ce qui compte, c'est la perspective objective. Hein, tout à l'heure, j'ai parlé des perspectives subjectives et des perspectives objectives. Et les sciences, toutes les sciences, travaillent avec la perspective objective. C'est-à-dire, il y a des valeurs, il y a des mesures, il y a des images, il y a des expériences,
mathématiques et tout.
Etc. Mathématiques ou autres. Et cette façon de fonctionner a eu un énorme succès. Ça nous apporte les technologies, ça nous apporte des médicaments, etc. etc. Et donc, cette façon de fonctionner où on privilégie le point de vue objectif est extrêmement populaire dans toutes les sciences, pas seulement en médecine. Hein, on mentionnait là des exemples de médecine, mais c'est le cas de façon générale dans les sciences. Et donc, la perspective subjective, on a tendance du coup à ne pas la considérer suffisamment ou pas autant, ou comme si elle était un peu secondaire finalement.
Oui. Hein. Et vous êtes gentil quand elle dit secondaire. Parfois même, on a l'impression qu'elle ne devrait pas exister ou qu'elle n'existe pas. Hein.
Voilà, exactement. Et d'ailleurs, il y a une théorie philosophique, donc pour revenir un petit peu plus proche du livre, qui dit que l'esprit, ce n'est rien d'autre que le cerveau. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a, c'est le cerveau, il y a des interactions électrico-chimiques qui se passent dans le cerveau, et l'esprit, c'est ça. C'est un bout de matière et des processus électriques et chimiques dans le cerveau. Et cette théorie est extrêmement populaire. C'est une théorie qui a beaucoup de succès aujourd'hui, parce qu'elle colle bien avec cette image scientifique du monde, qui est une image qui privilégie la perspective objective. hein, parce que c'est quelque chose qu'on peut mesurer, observer, etc., etc. Moi, ma douleur que moi j'ai dans mon épaule droite, je ne peux pas la partager avec vous, je ne peux pas la partager avec d'autres personnes, je ne peux l'avoir que pour moi. Et ça, ça rend difficile de travailler avec ça.
Bien sûr.
Par contre, ma douleur dessinée sur l'IRM, là, je peux la partager, je peux vous la montrer, les médecins peuvent la montrer entre eux. Et du coup, on peut travailler avec ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est aussi plus populaire, parce que c'est quelque chose qu'on peut appréhender plus facilement. Hein. Alors que l'intersubjectivité, partager la subjectivité de quelqu'un d'autre, sa douleur, eh bien, on n'y arrive pas, on n'est pas télépathe. Et donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on la laisse souvent de côté, parce que de toute manière, on n'y a pas tellement aussi bien accès.
Merci Jiri, à bientôt, passez une excellente nuit, merci beaucoup, bonne soirée,
merci.
Au revoir.
Bonne soirée.
Merci.